Les matins de France Culture qui ce matin s'intéressent donc aux Paradise Papers, le nom de cette nouvelle enquête internationale gigantesque sur les paradis fiscaux et le business offshore piloté par le consortium international des journalistes d'investigation et auquel on entendait à participer le bureau d'investigation de Radio France. On retrouvera tout à l'heure Jacques Monin. Un an et demi après les Panama Papers, une nouvelle fuite massive de données en provenance d'un cabinet international basé aux Bermudes, Appleby, pointe donc du doigt les trous noirs de la finance mondiale par lesquels des milliards de dollars d'euros échappent aux États en toute légalité. Que révèlent les Paradise Papers? Que disent-ils des failles de la finance mondiale? Et pourquoi la lutte contre les paradis fiscaux peine toujours à rendre ces pratiques impossibles? Certaines des questions qui nous intéresseront ce matin.
À Londres, la France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Pourquoi c'est important? Parce qu'à quoi sert-il, et je le dis à nos compatriotes, de faire des règles dans notre pays si des grandes banques dans notre pays ou ailleurs, peuvent avoir des filiales dans des paradis fiscaux qui s'exonèrent des règles prudentielles qu'on essaie de faire respecter chez nous. Il n'y a plus de paradis fiscaux et à Pittsburgh, l'un des enjeux, c'est que dès le premier trimestre de l'année prochaine, des sanctions soient appliquées sur des places, sur des pays qui ne respecteraient pas les règles en la matière. On y est arrivé. Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. Et je me battrai à Pittsburgh demain pour qu'il y ait des sanctions.
Voilà, Nicolas Sarkozy en septembre 2009, la veille d'un sommet du G20. Malheureusement, les paradis fiscaux, c'est pas tout à fait terminé. Bonjour William Bourdon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, vous êtes fondateur et président de l'association Sherpa, qui est une ONG qui défend les victimes de crimes économiques. Vous avez été l'avocat d'Antoine Deltour, notamment lanceur d'alerte à l'origine d'une partie des LuxLeaks, également d'Edward Snowden. On parlera tout à l'heure évidemment des LuxLeaks, mais il y a 18 mois, c'était les Panama Papers qui défrayaient la chronique. À l'époque, il s'agissait quand même d'une affaire qui mettait à jour des pratiques assez largement illégales. Fraude fiscale, blanchiment d'argent sale. Cette fois, les Paradise Papers lèvent le voile sur des pratiques qui, en tout cas du point de vue du droit, sont globalement parfaitement autorisées. C'est l'un des caractères tout à fait frappants de cette affaire, William Bourdon. On assiste à une vague d'indignation quand même généralisée, alors même qu'il s'agit de faits majoritairement non répréhensibles, William Bourdon.
Oui, il s'agit de faits non répréhensibles, parce que non réprimés. C'est-à-dire qu'il y a encore un delta important entre l'enthousiasme avec lequel un certain nombre de dirigeants politiques, dont Nicolas Sarkozy et d'autres, se sont exprimés pour annoncer la fin du secret bancaire et la possibilité d'attaquer frontalement les grands mécanismes d'évasion fiscaux. Alors, il y a un gap important pour des tas de raisons, qui sont des raisons à la fois politiques et des raisons techniques. Mmh. Alors, les raisons politiques, il faut le dire, c'est que, par exemple, aujourd'hui, l'Union européenne se réunit, là, aujourd'hui, mardi, pour mettre à jour à nouveau la liste noire des pays non coopératifs. Mais on voit bien qu'il y a des espèces d'aller-retour essuie-glace. C'est-à-dire que sous la pression d'un certain nombre de leaks, c'est le Panama Papers, aujourd'hui, ces nouvelles révélations, demain, il y en aura d'autres. Tout d'un coup, l'Union européenne fait mine de se rendre compte qu'elle n'a pas été capable collectivement, politiquement, de fixer une bonne fois pour toutes une règle commune lui permettant en commun de lutter contre les paradis fiscaux.
Alors qu'elle sait très bien pourquoi elle a échoué.
Ouais. Alors qu'il y a un décalage entre les préconisations de l'OCDE qui elle-même de temps en temps patine, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, pour obtenir, là encore, une mise à jour d'une liste de pays qu'on va réintégrer dans les juridictions non coopératives, alors qu'on les avait sortis il y a quelques années.
On en reparlera tout à l'heure en deuxième partie. Mais cette situation est totalement incroyable, William Bourdon, parce que, évidemment, tout ça, on voit bien qu'il y a une énorme escroquerie derrière tout ça. Et en même temps, cette situation, on la connaît. Je veux dire, on a conscience, les citoyens ont conscience et ne s'émeuvent pas tellement, finalement, de tout ça. Il n'y a pas de grand mouvement populaire puissant qui demanderait la fin de ces pratiques. Il y a évidemment des activistes, il y a des militants dont vous faites partie, mais pas de grand mouvement populaire. Que révèle, selon vous, cette étonnante acceptation de l'opinion sur ces phénomènes?
Je me permets de faire une nuance par rapport à ce que vous dites. Je vous rappelle quand même que le fait que des dirigeants du monde entier ont dessillé les yeux sur la réalité de cette économie financière parallèle, qui n'est pas d'ailleurs une économie clandestine, puisque c'est un secret de polichinelle, puisqu'elle fait partie intégrante du système, puisqu'elle permet à la pire des cupidités et des avidités de s'auto-alimenter, puisqu'elle permet à un certain nombre de multinationales, on l'a vu encore dans un rapport d'Oxfam, de transférer une partie de ses bénéfices. Ces dirigeants ont baissé les yeux sous la pression citoyenne. C'est la pression des ONG. C'est la pression citoyenne, il y a tous les sondages l'ont montré depuis 10 ou 15 ans, qui a contraint progressivement les dirigeants de la planète à faire de la lutte contre l'évasion fiscale, avec toutes les hypocrisies dont on va parler, un agenda essentiel en ce début du 21e siècle.
Mais sous mais la pression des ONG, des activistes, mais il n'y a pas de grand mouvement populaire, William Bourdon.
Il n'y a pas de manifestation dans la rue.
Il pourrait. C'est une énorme injustice qui coûte très cher aux États, qui coûte très cher aux citoyens.
Il y en aura peut-être. Pensez pas qu'il pourrait y avoir des manifestations dans la rue sur la question du harcèlement sexuel. Il y en a eu il y a quelques jours, il y a quelques semaines.
Il y en aura peut-être, c'est ce que vous dites.
Il y en aura peut-être un jour si les États continuent à être dans une forme de double langage, c'est sans doute trop caricatural, mais dans une forme en tous les cas d'hypocrisie, avec à la fois des engagements qui sont très fermes et qui ne tiennent pas toujours, et une forme de passivité qui encourage la cupidité. Pourquoi cette passivité? Parce qu'il y a des intérêts économiques extrêmement puissants qui, évidemment, nourrissent le maintien de cette économie parallèle, et parce que, par exemple, il faut le dire, qu'est-ce que révèle ce dernier scandale? Il y a un certain nombre de dirigeants politiques, et pas n'importe lesquels, les dirigeants les plus puissants de la planète, dont certains des conseillers, des très proches, sans pouvoir être épinglé dans ce nouveau scandale.
On pourrait en finir avec cette passivité, c'est ce que vous pensez. Cette affaire-là pourrait marquer la fin de cette passivité. Peut-être, en tout cas vous le souhaitez évidemment. Tout le monde voit bien, William Bourdon, qu'il y a derrière tout cela une immense escroquerie, je le disais, éthique et morale en tout cas. Les plus riches parviennent à échapper à l'impôt pendant que les autres payent pour faire mâcher un État dont les moyens ne cessent de se réduire. Et en même temps, du point de vue du droit, on le disait, il n'y a aucune escroquerie puisque tout cela est parfaitement légal. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette situation? Où est-ce qu'il faut aller chercher les racines de cette situation aussi étonnante?
Alors, les racines, elles ont été explorées par des tas d'économistes et elles tiennent en quelques phrases très simples. Dans ce qui est l'architecture de l'économie mondiale, il y a toujours eu, et ça s'est développé depuis des décades et des décades, la volonté d'un certain nombre d'acteurs privés économiques, que ce soit des multinationales, des personnes morales, des grands groupes, mais aussi un certain nombre d'individus, des personnalités politiques, des grands acteurs, des grands sportifs, il y a toujours eu la volonté pour les plus riches, ou pour certains des plus riches, d'optimiser leur richesse en la défiscalisant, en utilisant les trous noirs de la planète finance. Ce système, il a toujours existé et il s'est sophistiqué avec la globalisation financière. Car la globalisation financière, depuis 30-40 ans, a offert des outils de pacification des flux qui n'existaient pas avant. Il y en a toujours eu. La fraude est aussi vieille que le monde. Mais simplement, il y a des instruments qui ont permis de façon beaucoup plus massive et de façon beaucoup plus, entre guillemets, efficace, de se mettre à l'abri de sa propre administration fiscale. Donc ça a été un effet d'aubaine pour des centaines de grandes fortunes mondiales, ça a été un effet d'aubaine pour un certain nombre de grands groupes, ça a été un effet d'aubaine pour un certain nombre de dirigeants politiques, et ce qui est absolument insupportable, et vous le dites très bien, c'est que ça fragilise nos démocraties. Pourquoi ça fragilise nos démocraties? Parce que ces révélations, à la fois elles sont nécessaires, mais il y a une espèce d'effet contraire, elles sont nécessaires, mais elles attisent en même temps un sentiment de défiance structurelle maintenant, qui est quelque chose qui est une forme de malédiction de démocratie, qui font qu'elles ont peine à se moderniser, qu'elles ont peine à respirer. Et ce sentiment de défiance aujourd'hui, évidemment, à la fois, il va être tari par ces révélations et en même temps, paradoxalement, attisé et aggravé.
Vous parlez de démocratie, on parlera tout à l'heure de cette nécessité de défendre les lanceurs d'alerte parce que ça fait partie aussi du paysage, William Bourdon. Mais je continue un tout petit peu sur ce que vous appelez l'opacité du système financier mondial. Je voudrais qu'on essaye peut-être de comprendre un peu comment on produit cette opacité financière. Est-ce qu'elle est finalement le fruit d'un système financier qui serait intrinsèquement faillible pour un tas de raisons, et notamment parce que les États se jouent une concurrence acerbe dans le domaine fiscal notamment, ou est-ce que c'est le fait précisément de ces cabinets financiers qui, par leur extraordinaire expertise, produisent de l'opacité financière en fabriquant des montages qui passent sous les radars, ce qui laisserait penser quand même que, quelles que soient les règles, finalement, ils trouveraient toujours un moyen de les utiliser à l'avantage des riches. Vous comprenez la différence?
Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a une première salve, il y a une première cible. Après les premières leaks, bien avant Antoine Deltour, Panama Papers, tout ça a amplifié, massifié, mondialisé ce sentiment de scandale et a donné des coups de pied aux fesses aux dirigeants politiques qui faisaient semblant de découvrir une réalité qu'ils avaient couverte pendant des années. Mais maintenant, il y a une deuxième frontière qui sont, on va dire, la communauté des intermédiaires. Il y a cette communauté de grands ingénieurs de la fraude, parmi lesquels il y a un certain nombre de cabinets d'avocats. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de cabinets d'avocats. Et ces cabinets d'avocats, que ce soit le cabinet Monseca au Panama, ou que ce soit ce cabinet d'avocats qui est ciblé dans cette enquête, ils travaillent pas comme ça, hors sol. Ils travaillent parce qu'il y a des correspondants dans un certain nombre de pays européens, que ce soit en Suisse, que ce soit Liechtenstein, que ce soit en Angleterre, à la City, que ce soit également certainement en France. Et ces cabinets européens les utilisent comme relais pour justement optimiser la possibilité pour leurs clients de frauder le fisc. Alors c'est quoi le mouvement aujourd'hui ? C'est une espèce de course-poursuite. Parce que l'argent sale, l'argent caché, évidemment, quand il sent qu'il est en péril dans les sanctuaires historiques dans lesquels il était, va trouver d'autres sanctuaires. Donc il migre. Et cette migration, elle se fait parce qu'il y a cet engineering exceptionnel. Alors c'est quoi la conséquence de ce qu'on est en train de se dire ? C'est qu'il n'y aura jamais de lutte efficace contre les paradis fiscaux s'il n'y a pas de mécanismes de sanctions extrêmement sévères contre ceux qui permettent d'optimiser ces trous noirs de la finance mondiale, et si on n'attaque pas de plein fouet la responsabilité de l'ensemble de ces ingénieurs de l'évasion fiscale, les auditeurs, des comptables, des cabinets d'avocats, et ça, c'est sans doute une des frontières les plus difficiles à atteindre parce qu'elle va se heurter évidemment à des résistances considérables.
Vous pensez que c'est ça qui pourrait être décisif dans cette lutte, c'est les sanctions, parce que à chaque fois, depuis 10 ans maintenant qu'on a des révélations, à chaque fois, il y a des conséquences en réalité à tout ça. On prend des mesures. Écoutez, 2008, scandale UBS, il y a une conséquence qui est que la banque UBS va payer une amende aux États-Unis et qu'on va désormais engager une meilleure automaticité dans les échanges d'informations. Évidemment, c'est pas parfait, mais il y a des évolutions. 2013, Offshore Leaks, là aussi, ça joue un rôle très important dans l'offensive du G20 et de l'OCDE. On va mieux lutter contre les paradis fiscaux. On reviendra tout à l'heure en deuxième partie sur exactement les avancées en la matière. On va pousser encore vers une généralisation des échanges automatiques. Il y a LuxLeaks, où là encore, on s'en souvient, fragilisé considérablement le président, le tout frais président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, mais ça avait eu des conséquences. Nouvelle directive européenne qui obligeait les multinationales à transmettre des informations sur leurs activités pays par pays au fisc de leur pays. Donc à chaque fois, il y a eu des avancées. Et pourtant, ça continue.
Alors, il y a des avancées.
Ça n'en finira jamais.
On avance en crabe. Il y a des avancées, il y a des reculades, il y a des avancées. Maintenant, deux choses. Personne, il y a 15 ou 20 ans, n'aurait misé un copec, un euro, sur la dynamique actuelle. Elle reste insuffisante. Et je trouve qu'il y a une forme d'enthousiasme très hypocrite qu'on entend parfois dans la bouche à la sortie des G20. Et ça, tout le monde le voit bien, et notamment aussi les citoyens. Donc, il y a quand même une dynamique qui est nouvelle, qui est inédite, et dont il faut souhaiter qu'elle soit irréversible. Mais en même temps, il y a encore un fond d'hypocrisie qui reste extrêmement sévère. Et notamment, pourquoi est-ce qu'il reste que sévère ? Je vous donne un exemple. C'est qu'à la fois les mêmes pays qui ont pris des engagements de se rallier au système d'échange d'informations automatiques entre les administrations qui a été mis au point par l'OCDE il y a maintenant presque 2 ans.
On y reviendra.
Absolument, à Berlin. Ces mêmes pays refusent parfois de coopérer sur le plan judiciaire. La Suisse a refusé sa coopération judiciaire à un certain nombre de juges d'instruction du pôle financier ces dernières années en France, battant en brèche ainsi les engagements qui ont été pris en termes de coopération fiscale. Donc, on le voit bien, si l'autorégulation était applicable à la cupidité, l'humanité s'en serait aperçue. L'autorégulation et la cupidité, ça marche pas. Donc, comme ça marche pas, il faut du normatif.
Il faut de la sanction.
Évidemment qu'il faut de la sanction. Et la sanction, parce que c'est le seul instrument dissuasif qui permettra, et toute l'histoire de l'humanité le montre, qui permettra de juguler les effets.
Sauf que pour le moment, on n'en a pas.
Tous les effets du cynisme.
La sanction, c'est un terme qu'avait utilisé déjà Nicolas Sarkozy en 2009.
Il ne croyait pas lui-même. C'était juste.
Il avait dit maintenant, il faut des sanctions. Il n'y en a toujours pas.
Il n'a pas mis beaucoup de volonté politique pour qu'il y en ait, sinon on s'en serait aperçu.
William Bourdon, la question des lanceurs d'alerte. Vous êtes l'un des grands défenseurs des lanceurs d'alerte. Vous avez défendu, je le disais, Edward Snowden, Antoine Delcourt, français à l'origine du scandale
LuxLeaks aussi.
Pour vous, il faut absolument en faire davantage pour protéger ces lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a eu une loi en France, il y a eu cette loi Sapin 2 qui a créé un statut de lanceur d'alerte. Vous l'aviez un petit peu critiqué à l'époque, vous aviez dit qu'on était trop timide.
Alors, là aussi, elle participe de cette dynamique. Il ne faut pas non plus rougir des résultats ou s'offusquer, alors même qu'il y a quand même des pas qui sont faits. Mais deux idées extrêmement simples. Vous pouvez avoir la loi protectrice en France ou en Angleterre, la plus exemplaire qui soit des lanceurs d'alerte. Rien ne remplacera l'adoption qui est absolument indispensable, d'une convention européenne, voire d'une convention internationale, un jour qui s'impose à l'ensemble des pays de la planète protégés par un lanceur d'alerte. Et ça, évidemment, c'est pour l'instant une utopie, mais une utopie qui deviendra peut-être un jour une vérité prématurée, comme disait René Cassin. Et deuxièmement, dans ces trous noirs de la planète, il n'y a aucune législation protégeant les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, ils sont d'autant plus indispensables qu'ils brisent les secrets les plus verrouillés. Et plus un secret est verrouillé, s'il est très verrouillé, c'est parce que justement un certain nombre de hauts responsables publics ou financiers ou économiques de la planète, face à une législation qui quand même se durcit ici ou là, ont intérêt à aller obscurcir les fonds qu'ils veulent dissimuler, qu'ils veulent mettre à l'abri de l'administration fiscale, parce qu'ils savent que dans ces territoires, il n'y aura pas de lanceur d'alerte qui, du fin fond des ordinateurs, se sera capable de révéler l'ampleur des fraudes ainsi réalisées. Alors, faute de législation protectrice des lanceurs d'alerte, qu'est-ce qui se passe? Il y a des employés qui, anonymement, prennent contact avec le consortium de journalistes qui aujourd'hui dont il faut célébrer l'action, et qui sont à l'origine de Panama Papers, aujourd'hui de ce nouveau scandale, mais demain, vous savez, il y aura Dubai Papers, il y aura Hong Kong Papers, et puis dans 15 ans, il y aura peut-être China Papers, parce qu'aujourd'hui, Dubaï-Pékin est devenu la nouvelle route de la soie, mais à l'envers, la route de la nouvelle migration de l'argent sale, dans des canaux d'obscurité, on le sait, absolument à l'abri de toute investigation de quelque administration fiscale que ce soit, et a fortiori d'un juge européen.
Il y a quelques bonnes nouvelles s'agissant de la protection des lanceurs d'alerte. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a émis des critères qui permettent de définir exactement ce qu'on entend par lanceur d'alerte et de leur permettre aussi de bénéficier d'une immunité. Donc là, du point de vue du droit, les choses avancent.
Alors, moi, j'ai fait
en Europe, en tout cas.
J'ai dit que la loi Sapin 2 me paraissait sur un ou deux points insuffisante, mais en même temps, ceci doit être tempéré par le fait qu'elle est assez générale et que c'est la pratique du juge judiciaire qui va lui permettre aussi de lui donner sa dynamique et son amplitude. Donc je reste relativement optimiste sur le fait que cette loi aussi peut avoir un effet de contagion à l'échelon européen. Vous savez, les lanceurs d'alerte, aujourd'hui, en Europe, ils commencent à être globalement protégés. Mais la véritable protection, c'est deux choses. C'est la possibilité pour eux de saisir le juge prud'homal, le juge du travail, très vite quand ils sont virés. Parce que si c'est pour gagner au prud'homme 5 ans après, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et ça reste terriblement dissuasif. Et la deuxième, c'est qu'on leur accorde une forme d'irresponsabilité pénale quand, pour lancer l'alerte, ils sont obligés de désobéir, c'est-à-dire de briser certains secrets. Sinon, ça ne marche pas. Or, cette irresponsabilité pénale, elle est prévue dans la loi Sapin 2, mais elle est, pour l'instant, incertaine dans son application, et encore une fois, ce sont les décrets et la pratique des juges qui vont nous permettre dans quelques années de dire si cette loi est du niveau de modernité qu'on est en droit de souhaiter.
William Bourdon, dernière question avant de se retrouver en deuxième partie, il nous reste à peine une minute. Vous êtes, je le disais, fondateur et président de l'association Sherpa, qui est une ONG qui défend les victimes de crimes économiques, et face aux batailles que vous lancez contre les multinationales, sur l'évasion fiscale, sur l'optimisation, eh bien, il y a aussi des contre-offensives de la part de ces multinationales. On lance à votre rencontre, mais pas seulement à la vôtre, un certain nombre de procédures. C'est dur contre justement ces acteurs, ces militants, ces activistes qui luttent contre l'évasion fiscale. C'est ce que vous appelez les procédures bâillons. Quelle est l'ampleur justement de ce phénomène des procédures bâillons qui sert à vous empêcher d'agir?
Vous savez, ça c'est l'incroyable paradoxe. Les mêmes entreprises qui diffusent sur Internet des chansons, mais des psaumes en faveur de la lutte contre la corruption, qui adoptent des mécanismes de compliance extraordinaires, sont capables de balancer les papiers bleus, les ONG, pour les intimider, les faire taire, avec une brutalité inouïe. Alors oui, effectivement, Sherpa, on a été ciblé par un certain nombre de procédures bâillons. Elles viennent des États-Unis. Je pense que ce mouvement va se tarir. Pourquoi il va se tarir? Parce que plus les entreprises vont être fragilisées par leurs risques réputationnels, plus elles vont se rendre compte que ces procédures bâillons sont aussi susceptibles, par un effet collatéral et un effet boomerang, d'affecter aussi ce risque réputationnel. Mais pour l'instant, vous savez, cette idée que la recherche de la rentabilité peut être synonyme de vertu, elle commence par capillarité à infuser un certain nombre de cerveaux global managers de la planète, mais évidemment, on est loin du compte.
On est avec William Bourdon, vous restez avec nous. On vous retrouvera en deuxième partie vers 8h20. Vous serez rejoint par Jacques Monin et Thierry Philipona.